que tu vas pas mourir, hein, j'espère que. Je
ne
sais pas pourquoi ça revenait toujours, cette histoire-là.
Oui, oui, oui.
Ouais. Bon, alors maintenant. Et ben, tu vois, j'ai un problème. Bon, je ne sais pas. Ils ne se rendent pas compte vraiment de ce qui se passe parce qu'ils ont leur autre grand-père, Jean-Dru, qui a la même chose. Ouais. Donc, ils voient que finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. Alors, bon, bah, mamie, tu as un problème.
Attends,
bah,
Jean-Dru, il a la même chose que toi.
Jean-Dru, ben oui, il a été. Il a eu un, pas un pontage, mais il a eu un problème coronarien. Ils lui ont passé le ballonnet.
Il doit y avoir 7 ans,
je me souviens pas.
Il doit y avoir 7 ans.
Et puis il y a deux.
Vous êtes né au Coteau ?
Ah mais oui, tout à fait. Je suis née au Coteau, de parents costellois en plus. Toute la famille est costelloise, de génération en génération. Et autrement, les grands-parents, ça... Je ne sais pas mon grand-père d'où il était originaire, je ne sais pas au juste. Je sais qu'il habitait à Digoin, donc Blanchardon, dans la région. Mais je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort à ma naissance.
Ah ben oui.
Et ma grand-mère non plus, puisqu'elle est morte en mettant mon père au monde. Alors, c'est vous dire que... Là, je ne sais pas du tout. Alors, mes autres... mon grand-père s'était remarié. Il avait une grand-mère qui était originaire du coin, là aussi. Et du côté maternel, alors, ma mère était costelloise. Et ma grand-mère était née à Cordel, la petite mémé Cordel. Elle était toute petite. Elle était, je l'aimais bien, ma grand-mère. Elle était super. Et puis mon grand-père, je ne sais pas d'où il est. Oui. Mais à Rouen, peut-être bien. Donc c'est pas loin. C'est pas loin. Et j'ai toujours vécu au Coteau. Je me suis mariée à un Costellois.
Voilà.
Mes enfants sont nés au Coteau. Alors vous voyez que finalement, ça fait... Ça fait une...
Ça fait combien, 40,
tout à fait.
Combien de mariages
On s'est marié en 59. Ça fait 43 ans de...
43 ans, oui.
On s'est marié au Coteau, oui. Et voilà.
Tu as travaillé au Coteau.
J'ai travaillé au Coteau pendant longtemps.
Vous faisiez quoi au Coteau?
Alors, j'étais secrétaire. J'ai travaillé dans... j'ai toujours travaillé au Coteau. La première boîte, c'était une petite bonneterie. J'y suis restée 4 ans. C'était chez oui, 4 ans. Ensuite, dans une fabrique de prêt-à-porter de luxe, quand même. C'était assez huppé. Oui, ça s'appelait. Et là, j'y suis restée 11 ans. Oui, j'ai eu mes enfants, j'ai continué de travailler. C'est ma mère qui gardait les gosses. Et puis voilà, c'était bien pratique. Enfin, c'était du boulot quand même. Hein. Et quand le troisième est né, alors... donc, je me suis arrêtée. J'ai fait une petite pause, là, pendant 3 ans. Et puis après, j'ai recommencé à travailler. J'ai repris toujours le même boulot, toujours secrétaire. Et là, cette fois, j'étais chez un artisan électricien. Alors, j'étais bien tranquille. J'étais toute seule dans mon petit bureau. Oui, quand j'étais toute seule. Oui, tout à fait. Mais il s'est marié quelques années après, sur le tard, oui. Et il avait une femme qui était super sympa, une Normande, qui était professeure de français. Et on a toujours passé des bons moments à discuter, toutes les deux. J'ai même gardé ses gamins de temps en temps, quand elle avait des cours. Alors j'ai gardé ses mots. Mais ils sont venus à la maison dernièrement, là. Ils sont venus. On les avait invités pour discuter un petit peu. C'est vrai, se remémorer un petit peu tout ce qu'on avait vécu ensemble. C'était bien sympa. Mais c'était une bavarde de nez. Hein, quand elle est branchée sur quelque chose, alors là, tu peux y aller. Il y en a pour des heures et des heures. Hein. On passait de bons moments. On s'appréciait bien. Voilà. Alors, j'ai travaillé chez un huissier. Alors, cette fois, c'était à Rouen. J'ai fait une petite entorse au programme. J'étais à Rouen, chez un huissier. Oh, c'est pas très intéressant, chez un huissier, le boulot. Hein, les constats, les trucs comme ça. C'est vraiment particulier. Hein. Faut avoir une mentalité
un peu spéciale.
Pour faire ce métier-là, pour virer les gens, pour faire...
Il a fait combien d'années?
Eh ben, 6 ans, 7 ans. 7 ans, même. Oui.
Oui, c'est pas très agréable.
Pas très agréable. En plus, bon, je m'entendais plus ou moins avec... on n'était pourtant que deux femmes, mais...
Ça passait pas.
c'était pas. J'ai pas vraiment un souvenir.
Ah oui, t'étais à mi-temps et l'autre était à plein temps. Là,
oui, ça, oui, aussi. Puis, ah oui. C'était une femme un peu particulière quand même. C'était une Normande aussi. Ah oui. Non, pas Normande, Bretonne.
Ah oui. Bretonne. T'es-tu comme les Bretons
oui. Oui, c'est vrai.
Et puis après, elle a arrêté.
Et puis après, j'ai arrêté. Alors, quand j'ai eu. J'avais quel âge ? 55 ?
3, 54.
54.
Ah oui.
J'en ai eu marre. Je me suis dit, tu as fait ton boulot. J'avais suffisamment de trimestres voilà, pour pouvoir toucher ma retraite à taux plein. Alors, j'ai dit à mon mari, maintenant, tu vas me nourrir.
Voilà.
Et puis, je m'arrête de travailler. Voilà, comme ça j'aurai le temps de m'occuper de mes petits-enfants et tout.
Mmh. Et de profiter un peu.
Voilà, de profiter un petit peu. Et puis, dans un sens, je me suis arrêtée au bon moment parce que c'est au moment où Pat a eu tous ses problèmes de divorce et tout. Mmh. Et elle a eu grandement besoin d'un coup de main. Ouais, et bon, ça a servi à quelque chose.
Bah oui, puis elle avait repris ses études, elle ne pouvait pas être
bien
au four au moulin. Hein.
Alors donc, je me suis occupée des petits-enfants, quoi.
Il fallait bien. Il y a eu un grand accident là, en voiture.
Ah oui, hein. Oui. Pat, oui.
En 82.
En 82. Oui. Au début de son mariage, elle a eu un très très grave accident de voiture. Elle s'en est sortie, on peut dire, par miracle. Hein. Mmh. On se demande comment elle a survécu. Là. Elle était enceinte. Elle a perdu son bébé, bien entendu. Ça a été un épisode assez
dramatique.
Assez dramatique.
Très dur. Dramatique, oui, c'est sûr. Ouais. Puis qui lui a laissé quand même des séquelles.
Ah oui,
les yeux.
Vous voulez que j'en parle ou pas?
Si ça vous est douloureux, on peut parler d'autre chose.
Non,
on peut parler d'autre chose.
Oui, oui.
Par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents dans la vie?
Alors, mes parents, mon père, il a suivi ce que son père faisait. Son père était directeur à Digoine d'une usine de faïence. Et donc, mon père, automatiquement, il s'est mis dans cette branche-là. Mais mon père n'avait pas une envergure de patron pour diriger une entreprise. Travail. Il faisait son boulot, mais sans...
Sans conviction.
Oui, voilà.
Donc, c'était pas sa voie. Il a suivi...
Il a suivi, oui, c'est vrai. On peut dire ça un peu.
Qu'est-ce qu'il aurait aimé, ton père?
Oh, mon père, je ne sais pas trop. Tu sais, il n'avait pas un esprit d'entreprise. Il n'était pas trop entreprenant. Mm. Donc, il a suivi la facilité. Il pouvait avoir du travail chez son père. Donc,
il aurait été plutôt rêveur.
Ah oui.
Oui.
Artiste un peu.
Il a perdu sa maman. Il était jeune aussi.
Il n'a pas connu sa mère. Et bon, il a été élevé par des nourrices au départ. Ensuite, il a été interne dans un internat pendant longtemps. Mmh. Et puis ensuite, sa belle-mère, en somme, l'a récupéré. Parce qu'elle avait d'autres enfants. Elle a Bernard, Mado
et Jackie.
Alors le plus jeune avait mon âge, 2 ans plus que moi. Mmh. Alors c'était bien parce que quand j'allais chez ma grand-mère, j'avais Jackie.
Presque un frère.
Voilà, c'était presque un frère. Donc on était bien ensemble. Mmh. On s'entendait bien.
Et tu l'as revu?
Oh, peu maintenant, parce qu'il est dans la région parisienne. Ah, je l'ai complètement...
Il y a un bout de temps qu'il est... Il y a un bout de temps qu'il est...
Non, mais depuis que Bernard est mort, il...
Oui.
Bah,
oui.
Ah oui,
bien sûr. Avec François, je crois que ça...
Ah oui.
Ça s'entendait pas spécialement.
Oui.
Elle est très spéciale, Françoise.
La famille Blanchardon, en fait, c'est un petit peu dispersée dans la France.
Oui.
Alors bon, on a gardé peu de contacts. Moi, j'ai gardé très peu de contacts avec les cousins et cousines parce que j'étais un peu la pièce rapportée. Je me sens un peu comme ça par rapport à eux.
Ah oui, comme
je me sentais pas intégrée vraiment dans la famille.
Oui,
dans la famille.
Parce que
oui. Mon grand-père est décédé pratiquement à ma naissance, donc il s'est remarié. Il s'était avant il avait des enfants, mais on n'était pas...
Oui, c'est pas des familles peu... très soudées.
Oui, voilà.
Ah, oui.
On était un peu mis de côté, nous. On était un peu... Il était l'aîné de la famille, mais... Un peu à côté.
Oh là là, il avait une voix. T'en as pas dans tes gamins qui chantent bien?
Ah ben, j'ai ma sœur qui chante.
Ah ouais,
mais enfin, on ne peut pas dire qu'elle ait une voix d'opéra. Mais... ou de... Alors que mon
Monsieur
père, paraît-il,
moi, je l'ai... Oui, je m'en rappelle. Moi, j'étais jeune, mais je m'en rappelle bien.
Il avait une voix... Il était...
Il avait fait un disque.
Oui, on l'a jamais retrouvé.
Vous l'avez jamais retrouvé.
Jamais, il a été perdu et il n'y a jamais eu de... Il chantait les messes de minuit à l'église.
Oh ben,
c'était
oui,
vraiment... Il faisait partie...
Et sa principe... C'est pas... Écoute, c'est marrant, il y a des choses qui te marquent. Sa chanson qui était fétiche, si on peut dire, il chantait les vieilles de notre pays.
Ah, oui.
On, toujours les...
Bon. Il était baryton.
Oui.
Ah oui. Oh, très il était baryton, il paraît qu'il
avait
une magnifique et un coffre.
Ah oui, oh là.
Il avait une corpulence Pavarotti, si tu veux.
Oui,
voilà, voilà.
Faire
voilà.
Des recherches pour voir si tu retrouves ce disque.
Non, ses enfants avaient fait des recherches, mais il a été perdu corps et bien. Ça, c'est...
C'est dommage.
C'est dommage, mais c'est vrai qu'on a toujours regretté de ne pas avoir plus de... renseignements.
En fait, c'était une personnalité côtelloise aussi.
Ah oui, c'était une personnalité.
Monsieur Blanchardon,
oui,
c'était... Oui. De par
c'était
sa prestance,
ouais, ouais.
Il en imposait énormément. Et puis...
La famille, si tu veux, de ce côté-là, ils étaient plutôt un peu bourgeois,
chichi-pompon.
Ma grand-mère, je peux dire grand-mère,
dire,
puisqu'elle
ne
mettait rien, vraiment.
Oui.
Mais c'était la dame, quand même. Mmh. C'était la dame. Je n'avais pas du tout les mêmes rapports avec du côté de maman.
Ah oui. C'était deux milieux différents.
C'était deux milieux tout
c'était
à fait...
deux grand-mères tout à fait
différentes.
Tout à fait
différentes, oui. Ma petite grand-mère de Cordel, là.
Mmh. Bah, d'ailleurs, ton père avait quand même coupé les ponts avec la famille jeune, parce qu'ils se sont mariés jeunes, tes parents.
Oui, ils se sont mariés jeunes, oui.
Ils avaient 21 ans par là, quand ils se sont mariés.
Oui, tout à fait.
Mais à l'époque, c'était très jeune, quand même.
Oui. De l'autre côté, mon grand-père maternel, lui, il était fumiste. Il s'occupait des poêles, de réparer les foyers, de faire les cornets en tôle, tout ça.
D'accord.
Je me rappelle, moi, être gamine, avoir passé des heures à le voir confectionner, parce qu'il avait un patron, il n'était pas à son compte, il travaillait pour une entreprise, mais il avait quand même ses petits clients personnels, et il faisait son petit trafic, et il avait donc dans la cour chez lui un atelier qui s'était fait, et il fabriquait lui-même les cornets de poêles, quoi. Et je me rappelle, j'adorais rue Saint-Marc, et j'adorais le regarder travailler. J'ai sûrement passé la moitié de mon enfance chez eux, parce que
je m'en étais tout bien, la famille.
Et votre maman, elle travaillait?
Et maman, alors, elle a travaillé... Elle faisait des couvertures. Elle travaillait chez la sœur de ma grand-mère, qui avait une petite entreprise, et elle fabriquait des couvertures piquées. Et puis, elle a fait aussi dans l'éponge aussi. Elle faisait des serviettes éponge. Alors, elle travaillait à domicile ou quelquefois dans l'atelier de la tante, là. Mais alors, cet atelier, c'était aussi une partie de mon enfance parce que c'était à côté de l'école. Alors, donc, j'avais ma maman, j'avais ma grand-mère et la tante. Elles travaillaient
ensemble.
Toutes les trois ensemble dans ce petit atelier. Alors, ma grand-mère, elle faisait aussi les ourlets de serviettes éponge. Et puis, maman, elle a travaillé donc avec la tante, elle faisait ses couvertures. Et même nous, on était embauchés. Alors, quand on sortait de l'école avec Gabi, ma cousine, qui a été élevée par mon grand-père et ma grand-mère, on venait automatiquement, puisque toutes les femmes étaient là, on venait aussi dans cet atelier.
Et tu faisais quoi?
Et alors, je faisais quoi? Alors, quand ma grand-mère avait des serviettes éponges à plier, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait, nous? On pliait les serviettes éponges, on les mettait en tas par douzaines, on les attachait avec la ficelle, tout.
Et puis, à ce moment-là, il y avait des serviettes à nœuds, tu sais, on faisait... Les serviettes éponges étaient à franges.
Pas celles qu'elle faisait.
Ah non, pas celles qu'elle faisait.
Et non, justement, elle faisait les ourlets.
Elle
faisait les ourlets. Alors, elle séparait les serviettes. Elles avaient des grandes bandes de tissu, en somme. Et à la machine, elle les séparait. Alors, il y avait la partie pour fendre, pour séparer. Ça faisait un picot sur le bord.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
Et après, elle reprenait les serviettes et elle faisait les ourlets. Mmh. Les ourlets à jour. Alors, quelquefois, c'était les ourlets à jour. Quelquefois, c'était simplement piqué. C'est simplement un ourlet.
D'accord.
Et puis, la tante, à côté, elle faisait ses couvertures. Alors, elle avait une immense machine à coudre qui roulait sur des rails. Alors, le grand bonheur des gamines, c'était quoi ? Eh bien, on montait sur le côté, là, et on se faisait traîner par le chariot. Quand ça roulait, il y avait un bras fixe, et qui, elle cousait, en somme, elle dessinait sur les piqûres en zigzag, là. Et puis, quand ça arrivait au bout, elle nous poussait, et ça repartait pour recommencer de l'autre côté, voilà. Et il y avait une table immense où on posait bien sûr les couvertures. Il fallait tracer. Alors maman, elle faisait ça. Elle se mettait là-dessus, elle traçait.
Oui, c'était du boulot, même.
Oui, c'était du boulot. Ouais, c'était des grosses couvertures piquées en laine.
La couverture épaisse.
La vraie grosse couverture piquée.
Ça faisait un motif comme les boutis.
Voilà, un peu.
C'est des dessins. Les couvre-lits en boutis.
Il y a des dessins. Ça fait des morceaux rapiés. C'est encore que elle, c'était pas vraiment ça, parce que le bouti a souvent, ça fait souvent patchwork aussi. Mais c'était pas le patchwork là, c'était d'un seul tenant, des couvertures en satin. Voilà. Alors le petit goûter. Alors ma tante, elle avait beaucoup de clientes, bien entendu, qui lui apportaient ses couvertures. Et elle lui apportait des fruits souvent. Alors on faisait cuire des pommes. Je revois son poêle là. Elle avait souvent deux poêles parce qu'il fallait chauffer. C'était quand même assez grand. Il y avait une verrière au-dessus et il fallait chauffer tout ça. Et alors bien sûr dans le four, on faisait cuire des pommes et on mangeait les pommes cuites. Là c'était le bonheur.
Mais c'était bon.
Ah oui. Ouais,
c'était meilleur que tout le reste.
Ah oui, c'est sûr. Là c'était très très. Le Premier ministre ira-t-il à Beaulieu ? Le village de Beaulieu est en grand émoi. Le Premier ministre a en effet décidé de faire une étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année. Jusqu'ici, les seuls titres de gloire de Beaulieu étaient son vin blanc sec, ses chemises en soie, un champion local de course à pied, Louis Garret, quatrième aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, et plus récemment, son usine de pâtes italiennes. Qu'est-ce qui a donc valu à Beaulieu ce grand honneur ?